Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de partager avec vous sur un thème très capital dont le message d'aujourd'hui doit une suite, à savoir, tu as droit à l'abondance. Tu as droit à l'abondance, c'est pour te dire que Dieu n'est pas contre ton élévation. Dieu veut que tu puisses avoir du surplus. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu manifestes la fortune. Donc, bien-aimé, dans le Seigneur, la richesse est aussi ton droit légal en Christ. Je veux te montrer comment avoir l'abondance. C'est ça le thème du message. Comment avoir l'abondance. Et nous allons lire un texte dans Genèse chapitre 26, 12 à 16. Genèse 26, verset 12 à 16, que nous lisons. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplissaient de poussière. Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voyons ici, si on avait commencé par la partie du verset 1, vous allez voir que Isaac se trouvait à Guéra, sur le territoire des Philistins, là où son père Abraham avait vécu. La Bible déclare que il y a une famille qui surgit au temps d'Isaac. Et tout le monde a commencé par fuir Guéra pour aller en Égypte, pour aller chercher l'air dorado. Comme beaucoup parmi vous, vous avez fui votre pays. Vous avez décidé d'aller en Europe, en Amérique, ou bien ailleurs, pour aller faire fortune. C'est une bonne idée. Seulement, je voudrais vous dire ceci. L'élévation ne vient pas ni de l'Occident, ni de l'Orient. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Écoutez-moi, il peut y avoir crise économique, il peut y avoir crise politique. Si l'Éternel Dieu t'a positionné en un lieu, sur un territoire, et que c'est Dieu qui t'a positionné, laisse-moi te dire, c'est en cet endroit-là que l'abondance viendra te chercher. C'est en cet endroit-là que tu feras fortune. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un moment de critique, un moment de crise économique où Guéra n'a plus de ressources. Il y avait une grande famille qui s'est abattue sur Guéra au point où chaque citoyen de Guéra allait en Égypte pour pouvoir trouver affaire et gagner de l'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pendant ce moment-là où Isaac lui-même, il pensait qu'il pouvait aller. Aussi, il voulait faire comme les gens de Guéra. Lui aussi, il veut quitter. Il veut aller en Égypte. Heureusement que Isaac a le Dieu qui est le créateur de la richesse. A le Dieu créateur. Celui qui peut du rien peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Isaac a ce Dieu-là, parce que son père Abraham a rencontré ce Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-capable, le Dieu tout-suffisant, celui qui est le seul lui propriétaire de tout l'univers. Isaac, son papa Abraham, a connu ce Dieu-là. Ce Dieu a fait alliance avec lui, avec papa Abraham. Et il a promis Abraham de le bénir. Et de bénir même aussi sa progéniture. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant que la situation difficile, la situation de crise s'est abattue sur Guéra et les gens fuyaient pour aller chercher un dorado en Égypte. Isaac aussi voulait aussi aller en Égypte. Quand le Dieu de son père, le Dieu de l'Alliance, celui qui ne trahit point, il est venu la nuit dans un songe pour lui dire, Isaac, ne fais pas comme tout le monde est en train de faire. C'est ça ce que vous les croyants que vous devez comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres avant de pouvoir s'enrichir. Parce que les gens peuvent passer par plusieurs voies aujourd'hui pour pouvoir s'enrichir. Mais retenez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait sur cela d'aucun chagrin. Non, si la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne fait sur d'aucun chagrin, ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions. Il y a d'autres sources par lesquelles les gens peuvent s'enrichir. Mais cette bénédiction va leur apporter de douleur, de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de vendre de la drogue. Vous n'avez pas besoin de vous prostituer. Vous n'avez pas besoin de détourner les données publiques. Vous n'avez pas besoin d'assassiner, de tuer les gens pour prendre leurs biens, pour vous enrichir. Ces richesses-là ne vous apportera pas le bonheur. Ces richesses-là ne vous apporteront pas de succès. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a déclaré qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, et quel abondant est notre droit légitime, il y a une manière de pouvoir atteindre, de pouvoir être béni, de pouvoir atteindre l'abondance. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant ce moment de crise où Isaac voulait faire comme les autres, Dieu lui a apparu la nuit dans le songe, dans un songe, et lui a dit, toi là, ne bouge pas de Guéra. Ne bouge pas de Guéra. Ne quitte pas ici. Reste à Guéra et sème dans ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu sont parfois incompréhensibles pour nous les hommes. Parce que la manière dont Dieu opère va toujours surprendre nous les hommes. Vous devez comprendre que Isaac aurait voulu aller en Égypte comme tout le monde. Là où on ne peut pas semer. Dieu demande à Isaac de semer. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit Isaac, il sema cette année-là et il va récolter. Mais comment? On parle de la crise économique. On parle de la crise alimentaire. C'est la famine qui s'est abattue sur le pays. La terre ne donne plus ses productions. Mais c'est là que Dieu demande à Isaac de semer. Vous voyez, au sein de la crise économique, Dieu peut amener ses enfants à faire de bons chiffres d'affaires. Dieu peut amener ses enfants à faire de l'abondance. Même dans les pays où il y a la guerre, c'est là que d'autres personnes bâtissent leurs richesses. Bien-aimés dans le Seigneur, être riche, avoir la fortune, avoir l'abondance, c'est là n'est pas lié à la famille dans laquelle vous êtes sorti. Cela n'est pas lié à votre pays d'origine. Cela n'est pas lié au gouvernement en place. Mais cela est lié au Dieu de bénédiction qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Isaac sema. Comment Isaac peut semer là où la terre est frappée par la sécheresse? Mais Isaac n'a pas semé par lui-même. Il a reçu une parole. Mon frère, ma soeur, dans ta situation de pauvreté, au sein de la crise économique, ou bien au sein des difficultés, as-tu consulté ton Seigneur, l'Éternel Dieu? Quelle parole il t'a donnée? Isaac a reçu une parole. Et la parole dit de rester à Guéra et de semer. Vous savez, pendant que Isaac a commencé par semer, vous pensez que les gens voyez cela d'un bon oeil. Les gens ont commencé par se moquer d'Isaac. Isaac, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de sacrer le champ. Tu es en train de sacrer comment? C'est la famine. On ne peut pas semer. Il dit, mon Dieu m'a demandé à moi de rester ici et de semer. Ton Dieu, dont nous là, on n'adore pas Dieu. Donc c'est toi qui adore Dieu. Il dit, ah, Dieu m'a dit de rester ici et de s'aimer. On va dire, Isaac, ne te donne pas, ça c'est peine perdue. Les ingénieurs agronomes, les experts à la matière, ils ont dit que cette année-là, il n'y a pas de production. Et l'année prochaine, mais on ne sait même pas, parce que c'est la famine, c'est la sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes maintenant là, laisse-moi te dire quelque chose. Ce que tu vois, c'est la réalité. Mais la réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que tu vois. Voilà pourquoi, si tu veux aller de l'avant, si tu veux sortir de la masse, si tu veux marquer la différence, ne t'accroche pas à la réalité. Mais il faut saisir la vérité. Isaac, ses amis ont commencé par se moquer de lui. On dit cette année-là, Isaac a récolté au centuple. Vous pensez que Isaac a travaillé peu pour avoir le centuple? Non. C'est-à-dire que ses amis se moquaient tellement de lui au point où ses amis lui disent, ok, ton Dieu t'a dit de semer. Ok, si tu finis de labourer ton champ, nous-mêmes là, on te prête nos champs. Prends nos champs. Sème où tu veux. De toute façon, nous, on va en Égypte pour aller chercher la provision. Donc pour se moquer d'Isaac, ils ont libéré les champs pour Isaac. Isaac a labouré tous ces champs-là. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cette année-là, Isaac sema dans ce pays et recueillit au centuple. Je déclare dans le nom de Jésus que la bénédiction de Dieu qui multiplie au centuple les revenus descend dans votre vie maintenant dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas fini. On dit car l'Éternel le bénit. Vous voyez? Donc quand vous recevez une parole de l'Éternel, et vous levez pour obéir à ces paroles, il y a toujours la bénédiction qui suit. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Isaac, à partir de ce jour-là, est devenu riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Donc, ouais, on devient riche un jour, et il ne suffit pas de devenir riche, mais il faut continuer toujours à aller de richesse en richesse, et c'est pas donné jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je déclare et je proclame sur ta vie. Toi qui as reçu le Seigneur, toi qui es le même Dieu que Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui a béni Abraham, le Dieu qui a béni Isaac, le Dieu qui a béni Jacob, qui est devenu non seulement un Dieu pour toi, mais un Père pour nous, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'il te comble de la richesse et qu'il fasse de toi fort riche. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, non seulement Isaac avait cultivé, mais Isaac aussi avait diversifié aussi ses affaires. C'est ça aussi un secret. Vous qui faites les affaires, vous ne pouvez pas vous attacher à une seule affaire. Il faut multiplier vos affaires. Il faut intensifier. Il faut diversifier vos affaires. Comme la Bible déclare dans Ecclésias, travaille le matin et que ta main ne repose pas le soir. Les vrais hommes d'affaires, c'est les gens qui ont plusieurs affaires. Ouais, Isaac, il n'est pas simplement un agriculteur, mais aussi un éleveur. Parce qu'ici, on dit, il avait des troupeaux de menu bétail et de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Ah, Isaac est un producteur d'emploi. Seuls ceux qui produisent peuvent donner du travail à d'autres. Non, les vrais enfants de Dieu sont ceux qui produisent de la richesse. Et c'est ceux-là qui peuvent donner du travail à d'autres. Dans la francophonie, on a mis à nous la mentalité du fonctionnariat au lieu de la mentalité de l'entrepreneuriat. Seuls ceux qui entreprennent peuvent devenir riches, car le salaire ne peut enrichir personne. Voilà pourquoi la plupart de nos fonctionnaires d'État sont obligés de voler, de corrompre, afin de pouvoir acheter une voiture ou bien afin de pouvoir bâtir une maison. La Bible déclare, dans le texte que nous venons de lire, que nous sommes dans l'abondance. Avoir la richesse, posséder de biens, avoir la fortune, être dans l'abondance, fait partie de l'œuvre redemptrice de Christ pour nous. Car dans 2 Corinthiens 8, 9, 2 Corinthiens 8, 9, nous lisons, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait Nazareth. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais été pauvre. Jésus n'est jamais pauvre. Mais à cause de nous, il s'est fait pauvre. Où? À la croix. C'est à la croix qu'il s'est fait pauvre. Et c'est pourquoi à la croix, les trois caractéristiques de la pauvreté, de la misère, sont réunis avec Jésus-Christ à la croix. À la croix, il était nu. Il n'avait pas de vêtements. Le pauvre n'a pas de vêtements. À la croix, il avait faim. Depuis qu'on a arrêté la nuit, jusqu'à ce qu'on a jugé la nuit à la croix, on ne lui a pas donné à manger. Il avait faim. La faim. Le pauvre ne mange pas. Ne trouve pas à manger. Deuxième caractéristique de la pauvreté. De même, il avait aussi soif au point où il a demandé à boire. Vous voyez, quelqu'un a dit, quand vous avez ces trois signes-là, votre misère est établie. La nudité, la faim, la soif, c'est ce que les caractéristiques de la pauvreté et de la misère. Mais Jésus, on n'a pas le temps. Allez lire Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15, verset 15, 16, 17. Vous allez voir, la Bible dit, c'est par lui que toutes choses ont été créées. Et c'est pour lui que toutes choses ont été créées. Donc tout le monde entier, l'univers tout entier, a été créé par Jésus, est créé pour lui. Donc toute la richesse du monde entier, c'est-à-dire qu'il est le plus grand riche. Mais la Bible dit, à cause de toi, à cause de moi, selon ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 8, verset 9, dit qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous puissions enrichir. Autrement dit, le péché, la désobéissance à Dieu, la nature que nous avons reçue, que notre ancêtre Adam a reçue lors de la chute, cette nature de péché a pour conséquence la pauvreté, a pour conséquence la misère, la maladie. Donc c'est le péché qui a amené la maladie, la pauvreté, la misère, la haine, l'échec. Jésus ici a pris sur lui nos péchés. Elle est partie payer le prix de nos péchés. C'est-à-dire la rançon du péché, il est parti. Mais quelle est la rançon du péché? La mort. Voilà pourquoi il est parti à la croix. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus est mort pour nos péchés, vrai ou faux. Il est mort, non? Pour nos péchés. Pour que nous soyons comment? Pour que nous soyons sauvés. Et il est ressuscité. Et la Bible dit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont morts avec Jésus-Christ, ensevelis avec lui. Et ils sont ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout sont devenues nouvelles. Avec le péché, nous étions dans la pauvreté, dans la misère, dans l'impureté, dans le vol, l'adultère, dans le mensonge, les rancunes. Mais puisque Jésus-Christ a pris le prix du péché et nous a délivrés du péché, il nous a été restauré. Il nous a restitué à Dieu. Dieu nous a restauré. Dieu nous a sanctifié, purifié, justifié. Donc l'œuvre rédemptrice de Christ a réglé la question du péché. Ça veut dire que nous ne sommes plus des pécheurs, mais des justes de Dieu. Nous ne sommes plus des impurs, mais des saints de Dieu. Et dès ce moment-là, la Bible déclare que Jésus-Christ ayant payé le prix du péché, les conséquences que le péché a amenées, il a amené cela avec lui. Et ici, on spécifie quelque chose. On dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous qui sommes sous la grâce là, regardez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce là, afin que Jésus-Christ a pris sur lui notre pauvreté. Et il est devenu pauvre. Et il nous a cédé sa richesse pour que nous soyons riches. Gardez bien ce verset. 2 Corinthiens 8, verset 9. C'est dans le Nouveau Testament. C'est dans la Nouvelle Alliance. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Donc, le salut que nous avons reçu de Christ Jésus nous donne droit à la vie abondante. C'est notre droit légitime d'avoir la richesse, la prospérité. Notre Père Céleste, l'Éternel Dieu, veut que nous soyons riches. C'est la volonté de Dieu que toi qui as reçu Jésus, tu sois dans l'abondance, que tu sois prospère spirituellement et physiquement. Et Dieu l'a exprimé clairement. Cette volonté-là, il l'a exprimé clairement depuis la création. Et si vous avez suivi mon message, si tu as droit à l'abondance, nous avons parlé de cela. Lorsqu'il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 28, il les a bénis. Et ces bénédictions, il le reconfirme encore dans la nouvelle alliance. Selon 3e épître de Jean, 3e épître de Jean, le verset 2, d'ailleurs ce n'est que le 16 chapitre, donc 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite, car la Bible parle de bien-aimé, et pas de ceux-là qui ont reçu Jésus, et pas de ceux-là qui reconnaissent l'éternel Dieu comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il dit bien-aimé, pour ne pas dire cher croyant, pour ne pas dire le juste de Dieu, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, pour la volonté de Dieu, pour le croyant, c'est d'être prospère. La prospérité de l'âme, la prospérité du corps et la prospérité à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la première prospérité à laquelle Dieu appelle l'homme, c'est le salut de son âme. Et ce salut-là, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons déjà reçu ce salut. Et il dit, puisque vous avez reçu le salut et que votre âme prospère, c'est normal que vous ayez aussi la prospérité dans tous les autres domaines et que vous soyez aussi en bonne santé. Donc la prospérité est le choix de Dieu pour toi, mon ami, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Cependant, la prospérité, la richesse ou l'abondance ne viennent pas dans votre vie par hasard. Voilà pourquoi, depuis que vous avez reçu Jésus-Christ, malgré que vous citez que la volonté de Dieu, c'est que je sois en bonne santé et que je prospère à tous égards, comme prospère l'étape de mon âme, rien ne se passe dans votre vie. Parce que la prospérité dont Dieu parle ici doit suivre un certain nombre de principes que vous devez connaître et appliquer. C'est là que ceux qui sont conscients que Dieu les a appelés à la richesse, à la prospérité, c'est là qu'eux aussi, ils pêchent. Ils pêchent en ce que ils pensent qu'ils vont croiser les bras. Même ils ont des versets. Ils disent que Dieu a dit, il va laisser les païens d'amasser et il va prendre des païens et leur donner cela. Vous pensez que Dieu, il est juste comme ça comme vous? Dieu n'est pas un braqueur. Hein? Il ne va pas aller braquer les gens qui ont travaillé ou bien les gens, même s'ils sont païens, pour avoir la richesse et maintenant il va les arracher ça pour donner ça à vous. Non! Ce n'est pas comme ça que Dieu a dit. Non, 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 non. L'abondance, la richesse est liée à certains nombres de principes que vous devez observer. Même si vous n'êtes pas chrétien et vous observez ces principes, vous aurez la richesse. C'est pas que si vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que ce n'est pas la richesse qui amène le salut de votre âme. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que vous devez comprendre que si vous voulez avoir l'abondance, avoir la richesse, la fortune, cela suit un certain nombre de lois ou même de principes que vous devez connaître et appliquer. Parce que nous sommes en train de voir comment avoir l'abondance. La première loi, ou bien le premier principe qui vous conduit à la richesse, à l'abondance, c'est la loi du désir. La loi du désir. Demandez mon message sur cela. J'ai un message sur cela. Demandez cela et vous pouvez l'avoir. Il faut désirer. La loi du désir. Proverbe 10, verset 24 dit ceci. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes, leur est accordé. Vous ne pouvez que poursuivre et avoir ce que vous désirez. Quand vous ne désirez pas quelque chose, vous ne pouvez pas poursuivre la chose et vous ne pouvez pas l'avoir. La foi même s'exprime aussi en ces termes. Et Jésus lui a dit clairement, qu'il te soit fait selon ta foi. Or, la vraie foi, ça démarre par ce que vous espérez, par ce que vous désirez. Quand vous ne désirez pas quelque chose, quand vous n'aspirez pas quelque chose, quand vous n'avez pas une vision claire, vous ne pouvez pas parler de la foi. Parce que la foi ne s'appuie pas dans le vide. La foi commence d'abord par quelque chose que vous espérez. Vous ne le voyez pas encore, mais vous désirez cela, vous voulez cela, et vous formez une image de cela. Vous percevez la chose spirituellement dans votre cœur. Et vous êtes d'accord pour cela. Et maintenant, vous allez maintenant l'exprimer. Ou bien vous allez, cela peut vous demander maintenant à vous mettre en nation. C'est l'action laquelle la démonstration que nous fait. Donc, la vraie foi commence d'abord par le désir que vous avez d'atteindre un objectif ou bien d'accomplir quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, Psaume 21, le verset 2 à 3 dit ceci. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu lui as donné. C'est le Samuel qui dit, et dit l'éternel Dieu là. Et il dit à l'éternel Dieu, que l'éternel Dieu a donné au roi ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce et tu as mis sa tête une couronne d'or pur. Vous voyez, ce que le roi désirait, ce à quoi il aspirait, c'est ce que Dieu lui a donné. Et ce qu'il désirait, et ce à quoi il aspirait, c'est ça que ses lèvres ont commencé par demander. Mon ami, quand toi tu pries là, tu jeûnes là, tu pries avec quel objectif? Tu as quel désir? La prière n'est que l'expression de ce que nous désirons et que nous croyons que Dieu peut le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le premier principe, ou même la première loi pour avoir l'abondance. Vous devez désirer l'abondance. Mais qu'est-ce que la religion a fait? La religion a tout fait pour tuer le désir dans le cœur des croyants. Ainsi, on a utilisé des versets tels que « Heureux les pauvres, car ils iront au ciel. » Jésus n'a jamais dit ça. C'est du mensonge. Voici ce que Jésus a dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous entendez? Jésus ne parle pas de la pauvreté matérielle. Il ne parle pas de la pauvreté financière. Il ne parle pas de la pauvreté scientifique. Non, il parle de la pauvreté de l'esprit. Parce que celui qui est rassasié dans son cœur, il ne peut pas écouter Dieu. Or, si vous ne pouvez pas écouter Dieu, vous ne pouvez pas aller au ciel. Parce que c'est lui-même qui est la vérité. C'est lui-même qui est la vie. C'est lui-même qui est le chemin du salut. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, c'est pas que je vous dis là, son esprit est vie. Mais celui qui se croit intelligent que Dieu, plus sage que Dieu, il se voit déjà qu'il connaît que c'est un connaisseur parce qu'il a fait les études de cette vie. Et il est devenu peut-être titulaire de la chair dans son domaine. Il pense qu'avec ses connaissances scientifiques, ses connaissances littéraires, il pense déjà qu'il connaît tout. En réalité, devant Dieu, il n'est que misérable. Parce que la connaissance du monde ne peut jamais égaler la connaissance de Dieu. Et pour recevoir de Dieu, vous ne devez pas faire le pédant. Vous devez avoir un cœur simple. Voilà pourquoi la Bible dit, la révélation de la parole de Dieu est claire et cela donne de l'intelligence au simple. Donc Dieu veut que nous puissions lui ouvrir notre cœur, nous puissions lui ouvrir notre esprit pour recevoir ses instructions. Et c'est ceux qui reçoivent les instructions de Dieu et qui marchent les instructions de Dieu, c'est ceux-là qui peuvent vraiment jouir du paradis en commençant d'abord par l'abondance sur la terre. Donc c'est à cela que Jésus parle en disant, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais la religion a enlevé en esprit là et dit heureux les pauvres. Et on a dit cela à nous les Africains, afin de nous désintéresser de la richesse, afin de nous désintéresser de la prospérité. Voilà pourquoi l'église en Afrique, surtout dans le milieu francophone, est plus pauvre que le rat de l'église. Pour la petite histoire, c'est le rat et le chat qui se sont rencontrés. Et le chat, il a décidé de manger le rat. Et le rat dit quand même, toi aussi, nous sommes des animaux. Suis-moi, là où j'habite. Et arrivé là, tu vas trouver à manger. Et le chat lui demande, tu habites où? Il dit, j'habite à l'église. Le rat dit, j'habite à l'église. Le chat dit, l'église là ne fait pas mon affaire. Parce que ceux qui s'en vont là-bas, ils sont tellement pauvres qu'ils ne laissent pas les miettes tomber de la table. Vous voyez? Donc le chat dit au rat que là où il habite là-bas, là, il n'a même pas de miettes. Et le rat dit, effectivement, tu as raison. Hein. Il dit tous les dimanches que Il faut aimer son prochain. Mais pourtant, il ne laisse pas des miettes pour que nous puissions trouver à manger. Vous te dites que quand on parle de l'église, on associe tout de suite l'église à la pauvreté. Pourquoi? À cause de votre mentalité erronée, à cause de la fausseté que la religion a semée à vous. Et les colons, les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique, qui ont mis de pareilles choses dans nos têtes, ils ont fait cela pour nous désintéresser de la richesse, afin de pouvoir piller nos ressources. Mais grâce à rendu à Dieu, pendant qu'ils sont en train de piller nos ressources, ils ont oublié la Bible. Et nous avons ramassé la Bible aujourd'hui. On a compris que la vraie prospérité commence par l'auteur de la prospérité, qui est l'éternel Dieu. Mes chers amis, vous ne pouvez pas entrer d'invoquer l'éternel Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et continuer à rester dans la pauvreté, à la misère. Non. Et lorsque vous ne désirez pas quelque chose, vous ne pouvez pas l'avoir. Saint-Esprit, viens au secours de l'église francophone. Viens au secours de mes frères et de mes soeurs. Saint-Esprit, amène-les à se débarrasser de tous les faux enseignements qui les ont avilis, qui ont fait des esclaves, qui les ont empêchés de réfléchir, de désirer. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le désir monte en vous maintenant. Le désir d'obéir à Dieu. Le désir de prospérer. Le désir de faire la volonté de Dieu. Car là où il y a le désir, il y a la force qui doit venir pour vous aider à aller de l'avant. Donc, première loi, ou un premier principe pour atteindre l'abondance, c'est qu'il faut désirer l'abondance. Et cessez de nous casser les oreilles avec l'histoire du pauvre Lazare et du riche. C'est Lazare lui qui a désiré ça. Allez lire le texte. On dit que Lazare désirait, était un homme désiré des miettes qui tombaient de la table du pauvre. Donc Lazare n'a jamais désiré l'abondance. Il n'a jamais même désiré la guérison. Voilà pourquoi il n'a jamais dit, « Oh Dieu, délivre-moi de cette maladie. » Il n'a jamais appelé Dieu au secours pour la guérison. Et également, il n'a jamais demandé à ce qu'il puisse avoir lui-même sa propre table. Il désirait manger les miettes qui tombent de la table du riche. Bien-aimé dans le Seigneur, Jabez, lui par contre, ayant compris que le Dieu, qui est le Dieu d'Israël, le Dieu de ses ancêtres, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a regardé Abraham, c'est un homme béni, riche, qui est mort dans la richesse, qui a légué la richesse à Isaac. Isaac encore, Dieu l'a encore béni, il est devenu fort riche. Au point où, n'oubliez pas, hein, ça c'est aussi quelque chose, hein, vous devez noter ça. Dès l'instant que Dieu ne commence pas à vous élever, sachez que l'adversité va devenir grande. Tant que vous êtes au même niveau que les gens ne vont pas vous critiquer. Hein. Mais dès l'instant que Dieu ne commence pas à vous élever et vous ne commencez pas à les dépasser, c'est là qu'ils vont commencer par vous critiquer. Isaac était toujours avec les gens de Guéra. Personne ne lui portait envie. Tout le monde était content. Mais dès l'instant qu'il est devenu fort riche, la Bible dit, et les Philistins lui portaient envie, la jalousie, la haine. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que cela a arrêté Isaac? Non. Laissez les hommes dire ce qu'ils ont à dire et vous avancez avec Dieu. Deuxième principe qui amène l'abondance. Si vous désirez et que vous restez seulement à l'état de désir et que vous ne vous levez pas par la foi pour agir, vous ne serez pas riche. Voilà pourquoi la Bible dit, les désirs du pauvre sont insatisfaits. Les désirs du pauvre sont irréalisables. Parce qu'il désire, mais il ne veut pas travailler. Cela nous amène au deuxième principe qui vous amène à l'abondance. Écoutez-moi, cher pasteur, écoutez-moi, cher homme de Dieu. Je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas la dîme qui enrichit quelqu'un. La dîme est une portion d'alliance. Un acte de reconnaissance. C'est pour vous amener à ne pas oublier Dieu. Et si vous arrêtez, homme d'affaires, seulement à la dîme, c'est que vous n'avez pas encore compris. La dîme n'est que le commencement. C'est-à-dire que si tu veux apporter à Dieu, ça ne doit pas être en dessous de la dixième. Et la dîme, c'est pour ceux qui ont commencé. Si tu es dans le Seigneur, pendant 5 ans, 10 ans, Et que c'est à Dieu que tu donnes toujours, tu seras misérable. Ce qui apporte la bénédiction, l'abondance. Hein? J'ai dit pour désirer. Deuxièmement, il faut se donner au travail. Le travail n'est pas le fruit du péché, mais c'est un moyen que Dieu a donné à l'homme pour assurer sa survie et lui donner l'abondance. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne ment pas non plus. Vous entendez? Quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne ment pas non plus. Même si tu as la foi et que tu peux prier et jeûner du 1er janvier au 31 décembre, même si tu es l'homme le plus saint, l'homme vraiment parfait, et que tu ne travailles pas, c'est un péché. Ta sainteté ne va pas te donner l'abondance. Parce que chaque chose suit sa route et chaque chose a le but pour lequel Dieu l'a établi. Donc, si vous voulez avoir l'abondance, donnez-vous correctement à votre travail. Ne soyez pas des paresseux. Ayez une activité qui vous occupe. Investissez-vous dans ce travail. Et la grâce de Dieu va vous accompagner dans ce travail-là, dans cette affaire-là, et vous aurez l'abondance. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne ment pas non plus. Deutéronome 3:16. Donc le travail nous permet de procurer la nourriture. Et il nous permet aussi d'avoir l'abondance, c'est-à-dire la richesse. Proverbe 10, verset 4. Il dit quoi? Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des dirigeants enrichit. Vous savez, celui qui agit d'une main lâche, ça veut dire quoi? Celui qui ne prend pas soin de ses affaires, celui qui ne se donne pas correctement à son travail, celui qui laisse ses affaires pour aller s'occuper des futilités, celui-là, il agit d'une main lâche. Et la Bible dit, il va s'appauvrir. La main des lâches amène la pauvreté. Mais la main des hommes dirigeants, vous savez qu'on appelle un homme dirigeant? C'est un homme qui travaille dur, un homme qui se donne au travail. Voyons, tous ceux qui sont riches par la voie normale, et vous verrez qu'ils ont une occupation et un travail auquel ils se sont donnés. La richesse ne vient pas du néant. Dieu a promis de bénir le travail de vos mains. Dans Deutéronome 28, verset 11 à 12, quand vous dites Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu ne bénit pas le néant. Et regardez bien la Bible. Toutes les fois que même il veut faire un miracle financier ou bien un miracle matériel, il demande toujours qu'as-tu? Deutéronome 28, verset 11 à 12, il dit ceci. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir, tu entends, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'appelle notion qui amène un homme à être dirigeant dans son travail et à gagner le gros lot, que cette notion te touche là maintenant dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai détruit dans ton travail, j'ai détruit dans tes affaires tous les dévoreurs, tous ceux qui tentent à te ralentir, tous ceux qui cherchent à détourner tes profits. Je les révoque de tes affaires, de ton travail, de tes activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ordonne que la pluie de bénédiction arrose tes activités, arrose ton travail, afin que tu puisses en avoir en abondance pour subvenir à tes besoins et également pour être un partenaire financier dans le royaume des cieux pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Troisième principe, si tu as le désir d'être riche, le désir d'avoir l'abondance et que tu te donnes à ton travail, troisième principe que tu dois appliquer, n'oublie jamais Dieu dans tes revenus. Souviens-toi de l'Éternel Dieu dans tout ce que tu reçois comme revenu. Tes affaires, tout ce que ça va générer comme des bénéfices, il ne faut jamais oublier l'Éternel Dieu qui t'a béni. Il faut bâtir une alliance de prospérité avec les fruits de ton travail. Et l'alliance de prospérité que tu peux bâtir avec Dieu à partir de ton travail, c'est les ressources, c'est les revenus de ton travail, les revenus de tes affaires, c'est avec ça là que tu peux baptiser la nièce avec l'Éternel Dieu. En faisant quoi? C'est lui-même qui a dit que il veut que tes ressources puissent se multiplier, que tu puisses avoir l'accroissement, que tu puisses avoir l'abondance. C'est lui-même qui dit encore dans Deutéronome 8, versets 17 à 18, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, quand, lorsque tu verras tes biens s'augmenter, lorsque tu vas travailler et tu l'auras, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner beaucoup d'argent, ou bien tu vas avoir la fortune, garde-toi dans ton cœur de dire, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire ça. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, donc la force pour travailler, l'intelligence pour travailler, les idées pour saisir les opportunités d'affaires, ou bien pour pouvoir mettre une affaire sur pied et que l'affaire a pu réussir, ces idées-là, ça vient de Dieu. La force-là, pour travailler, pour accueillir la richesse, c'est Dieu qui le donne. Et je déclare qu'il en soit ainsi pour ta vie dans le nom de Jésus. Et dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, sans l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc mon frère, ma soeur, tu dois savoir que la force pour travailler, l'intelligence pour faire les affaires, les opportunités pour gagner beaucoup d'argent, viennent de Dieu. Il est non seulement celui qui donne l'inspiration des services à rendre pour gagner de l'argent, mais également celui qui donne la force pour acquérir la richesse. Pour nous aider à ne pas oublier Dieu dans nos revenus, mais plutôt à les faire croître, l'Éternel nous recommande de faire alliance avec lui par les fruits de notre travail. Donc la première chose où il demande à ceux qui font les affaires, c'est d'abord les prémices de vos revenus. Chaque année, vous ne devez pas manquer de lui apporter les prémices de vos revenus. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel Dieu avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Vous entendez? Avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers seront remplis d'abondance. Tes affaires vont se multiplier. Quand? Lorsque tu vas honorer l'Éternel Dieu avec les prémices de ton travail, avec les prémices de tes affaires. Deuxième élément qui vous permet de bâtir alliance avec Dieu. Donc chaque année, en tant qu'homme d'affaires, en tant que frère et soeur en Christ, vous ne devez pas manquer d'apporter les prémices de vos fruits, de vos revenus à l'Éternel Dieu. Vous devez bâtir une alliance financière, une alliance de prospérité avec Dieu en apportant un sacrifice sur l'autel d'alliance. Donc, deuxième élément qui peut vous permettre de ne pas oublier Dieu, c'est de lui remettre sa part d'alliance. Chaque fois que nous gagnons quelque chose dans notre travail, vous devez savoir qu'il y a la part de Dieu dedans. Et la part de Dieu, c'est la deuxième partie de nos revenus. C'est ce qu'on appelle la dîme. Ne pas remettre à Dieu sa part, c'est le voler. Ceux qui n'apportent pas au moins la dîme à l'Éternel, vous volez l'Éternel. Et la Bible déclare que la malédiction peut frapper vos affaires. Et cette malédiction-là, ça ne vient pas de Satan, ça ne vient pas de sorciers. Ça vient de la désobéissance à Dieu. Donc, il est impossible que l'Éternel Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, et que vos affaires ne commencent pas à se multiplier, et que vous ne pensez pas à investir dans l'œil de Dieu, que vous refusez d'apporter à l'Éternel sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs choses aujourd'hui. Et les gens, ils disent qu'on est dans une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance-là, la dîme n'a pris sa place. Allez lire bien votre Bible. Abraham a donné la dîme. Isaac a donné la dîme. Et Jacob a donné la dîme. Et bien, en ce moment-là, la loi n'était même pas là. Parce que la loi est venue avec Moïse. Et Moïse est né des centaines d'années après que Isaac, Abraham et Jacob ont vécu. Et la Bible dit, nous partageons la même bénédiction que Abraham. Si nous partageons la même bénédiction que Abraham, posons les pas que Abraham. Abraham a bâti une alliance. Une alliance de bénédiction avec l'Éternel Dieu. Lorsqu'il est revenu de la victoire, où il est venu délivrer Lot et les gens de Sodome et de Gomorrhe, il est revenu avec les biens. La première personne qu'il a rencontrée, c'est qui? Melchizedek, non? Melchizedek, c'est qui est en même temps roi de Salem et sacrificateur. Mais si la Bible dit, il n'a ni père ni mère. Qui est dans ce moment qui n'a ni père ni mère? Parce que ce n'est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même a pris la forme humaine pour venir raconter Abraham. Et il est venu pour apporter Abraham le pain et le vin. Les deux choses symbolisent quoi? La parole, le pain, c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Notion. La cape, le Saint-Esprit, vous apporte notion. Là où vous êtes nourri et que le Saint-Esprit est à l'œuvre, vous ne devez pas manquer de payer votre dîme là. Et écoutez-moi, on ne donne pas la dîme. La dîme n'est pas un don. Mais on remet ou bien on paie sa dîme. On remet la dîme parce que c'est la part d'alliance dans ce que vous gagnez. Et quand vous faites cela, ça a une influence radicale sur vos affaires. Et c'est ce que Malachi 3, verset 10 à 12 dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc, si vous avez plusieurs affaires, vous devez apporter la dîme de chaque affaire. Vous devez apporter la dîme de chaque affaire. Si vous êtes fonctionnaire et vous avez encore d'autres affaires, vous apportez la dîme du salaire que vous gagnez et vous apportez aussi la dîme des affaires que vous faites parallèlement. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et mettez-moi de sorte à le prouver. Vous savez, Dieu a interdit qu'on puisse le prouver, qu'on puisse le tenter. Mais ici, Dieu vous donne l'ordre de le prouver, de le mettre à le prouver. Il dit, mettez-moi de la sorte, en faisant quoi? En apportant la dîme, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je noue pas pour vous les écus des cieux, et si je ne prends pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous entendez? Et il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Troisième chose que Dieu nous a recommandé de faire, afin de nous aider à ne pas l'oublier dans nos revenus, afin que nos activités puissent continuer à prospérer, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Vous devez apprendre à investir dans l'œuvre de Dieu. En dehors de la portion d'alliance que vous apportez à l'Éternel Dieu, vous devez mettre les intérêts de Dieu dans vos intérêts. Dieu doit occuper la première place dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le résultat de la consécration à l'Éternel Dieu, de la portion d'alliance que vous apportez et des investissements que vous faites dans le royaume des cieux, votre part que vous accomplissez en apportant les ressources nécessaire pour que l'évangile soit prêché, cela va vous apporter la bénédiction. Et je vais vous le dire, c'est tout cela que l'apôtre de Dieu appelle la loi de semer et de récolter. Donc, toutes les fois que vous gagnez de l'argent, n'oubliez jamais, appliquez cette loi. 2 Corinthiens 9, 6 à 8, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème abondamment, maçonna abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. N'oubliez jamais ça. La loi de semer et de récolter. On récolte ce qu'on a semé. Et la parole de Dieu dit, et c'est là, on parle de la loi de mesure. La manière dont vous apportez à Dieu, c'est de cette manière également que lui aussi, il va vous enrichir, il va vous bénir. Que l'Éternel de vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et je déclare, le Dieu qui peut combler de toutes sortes de grâces pour que vous puissiez posséder en tout temps de quoi satisfaire vos besoins et également que vous ayez en abondance pour faire de bonnes œuvres, que ces grâces-là soient abondantes sur votre vie au nom de Jésus. Et je déclare que tout ce que vos mains vont toucher à partir de maintenant, que ça vous apporte la richesse, ça vous apporte le succès. Et quelle que soit l'évasion que vous allez connaître, que les intérêts de Dieu soient tout présents dans votre cœur. Et que vous soyez un vrai partenaire financier pour les affaires du royaume des cieux. Et que le ciel s'ouvre sur vous pour vous accompagner dans votre travail, dans vos affaires, afin de vous donner l'abondance dans le nom de Jésus. Et je donne à la terre d'être favorable à toutes vos actions, d'être favorable à toutes vos préoccupations professionnelles, d'être favorable à vos affaires, et que les opportunités qui vont vous enrichir parviennent vers vous dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit vous éloigne de toute opportunité qui va vous approuvir au nom puissant de Jésus. Que le Dieu vous bénisse et que vos mains deviennent des mains dirigeantes, des mains bénies de la part de l'Éternel, et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez toucher, que cela vous apporte le bonheur, la joie, le succès et l'abondance. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié pour vous. Amen.
Vous venez de suivre l'émission « La puissance de la parole de Dieu » présentée par le prophète Emmanuel Adankon. Si vous voulez avoir ce message, contactez Impact TV si vous êtes au Burkina. Au Bénin, appelez le 229 65 10 39 39 ou le 229 65 17 78 37. Si vous êtes à l'étranger, allez sur le site enseigne-moi.com. Pour des conseils spirituels, appelez le 229 67 37 89 34 ou le 229 95 05 21 18. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Shalom.